Les erreurs passent, il n'y a que le vrai qui reste. Diderot.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Il est 12h03, c'est la suite d'entrée sans frapper avec Marie-Agnès Baupin, avec Eve Jans, avec Laurence Bibot qui est toujours avec nous et avec des voix et des voix du tram.
Absolument. Que voulez-vous que je dise de plus ?
Mais je ne sais pas. Que ça va être bien.
Ah oui, ça va être bien, ça va être nostalgique.
D'accord.
Évidemment.
On sera dans les années...
On est dans les années 80.
Ok, parfait. C'est dans quelques instants de toute manière. Bonjour Michel Dufresne.
Bonjour. Bonjour à tous.
On vous retrouve en fin d'émission avec une thématique que vous allez décliner avec trois polars.
Oui, trois polars, parce que le technopolar est à la mode et trois auteurs sortent coup sur coup des livres qui se font écho et qui forment une sorte de continuum de réflexion que l'on pourrait avoir. Et donc, s'il s'agit des romans de Cyril Carrère, Sylvain Forge et Benjamin Fogel.
Ça, on verra en fin d'émission. Deux invités ce midi, l'écrivain Sébastien Bailly, d'abord lauréat du prix Première 2024, remis au cours de la dernière foire du livre de Bruxelles, c'était pour son premier roman, donc Parfois l'homme. Et puis à l'occasion de la sortie cette semaine du film The Fall Guy avec Ryan Gosling qui interprète le cascadeur Colt Sivers, eh bien nous allons tenter d'en savoir plus sur ce métier de l'ombre du cinéma qu'est le métier de cascadeur ou de coordinateur de cascade. Ce sera en compagnie d'un professionnel, Olivier Bisbach. Bienvenue à tous et à toutes d'Entrée sans frapper.
Écoute, on ne prend pas assez le temps. Entends-tu ? Ça ne sert plus. Boudeuse, tout cela ressemblait à autre chose.
Oui, mais votre ambition n'était pas cependant d'ordre politique.
Entrée sans frapper sur la première avec la Sonuma.
Alors, on a déjà les photos dans le studio. Pour ceux qui ont l'image, c'est avec vous, Laurence, que nous allons entendre des voix de tram dans les années 80.
Ben oui, parce qu'on connaît le Belge comme un amateur, que dis-je, comme un passionné de bière, de chocolat, de gaufre, de café, de frites. Une passion qui peut lui faire perdre son légendaire sens de l'humour. Personnellement, je ne suis pas très exigeante quand il s'agit de nourriture, mais question frites, je ne ris pas avec la double cuisson. Eh bien, dans cette liste, on avait oublié le tram. Ouais. On avait oublié le goût du tram. Alors, je parle ici principalement aux Bruxellois, parce que pour les Bruxellois, le tram, c'est sacré. Et la suppression du...
Mais pour les Liégeois, c'est pas encore sacré.
Le tram, c'est sacré quand ça arrive. Oui,
bien sûr.
Ici, nous, c'est quand ça disparaît.
Ouais.
La suppression d'une ligne est vécue comme un arrachement. Ouais. Et les archives de la Sonuma en témoignent et en font même des caisses. Musique dramatique, voix sombre, évocation du cercle vicieux, moins de moyens, moins d'offres, moins de voyageurs, ton martial, tout ça pour nous parler de la disparition de la ligne 62. Ah, on ne mâche pas ses effets. Vous allez entendre des extraits d'Antenne Soir de 1982 et Autant savoir
oui, bien sûr.
De 1987.
Le ministère des Communications va encore imposer des restrictions. Il est question de 500 millions par an. Les travailleurs de la STIB risque d'être touché. Pour l'usager, les prix vont monter. Le direct à 50 francs, peut-être pas pour demain, mais sûrement pour après-demain. Un cercle vicieux illustré par les derniers projets de la STIB. Suppression de lignes de tram et remplacement partiel par des autobus. Au désespoir des usagers, l'avenir des trams de Bruxelles est très incertain. Ceci est peut-être une image historique. La dernière du tram 62, rue Traversière.
Une image historique.
Oui, on ne mâche pas ces mots.
Voilà. Ouais. Après, on ne verra plus le 62.
Non.
Terminé.
Non, très intéressant parce que franchement, c'est un drame. Il y a des associations de consommateurs qui se mettent en place, qui n'existent plus depuis longtemps.
Mais là, je vois l'image, ça me fait tout drôle de voir les vieux trams, les trams.
Et il en existe encore. Je pense que le 39 ou le 44. Si vous voulez aller prendre une ligne, vous allez à Terburen.
C'est ça.
Vivre un bon moment.
Un petit bain de nostalgie.
Ouais, exactement. Alors, c'est pas un sujet nouveau parce que dès 1979, dans Bruxelles se raconte tram. Mes compagnies, on déplorait déjà la disparition de certaines lignes. Mais ici, et c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus touchant, ce sont curieusement des jeunes qui sont nostalgiques. Et que font les nostalgiques en général? Ils collectionnent. Et là, ils collectionnent tout ce qui est tram. On n'est plus dans la passion, je vous le dis tout de suite, on est dans le fétichisme. Trois garçons à lunettes qui doivent avoir 15 ans et pas une vie, comment dire, sociale très développée, d'accord?
Et des belles chemises aussi.
Oui, des belles chemises à carreaux et des grands cols. Pelle à tarte comme tous. Alors d'ailleurs, s'ils se reconnaissent, je serais curieuse de savoir ce qu'ils sont devenus. Trois garçons totalement investis et, pour ma part, totalement craquants.
Oui. Qu'est-ce qui fait que des jeunes de votre âge s'intéressent à ça?
On allait à l'école au début. Avec le tram, on a commencé à s'intéresser. On a un peu essayé de découvrir le réseau. Une fois, un après-midi, on allait visiter des lignes, etc. Puis on a commencé à aller voir la STIP, quoi, demander la documentation, etc. De fil en aiguille, c'est arrivé comme maintenant.
Ouais. Et puis alors, les lignes qu'on supprime petit à petit, on en fait les photos, parce qu'on trouve qu'il faut avoir des souvenirs pour plus tard, des lignes supprimées. Alors petit à petit, bon, on s'intéresse d'abord à faire des photos, et puis ça augmente, on prend les pièces, et puis ça arrive au point actuel. Quoi.
Généralement, les pièces de tram que la STIP met en vente, donc comme les films avec tous les numéros, c'est jamais cher, quoi. Bon, c'est toujours à prix très modique, et bon, c'est pas ruineux, quoi. On pourrait dire, pour les flèches, on a acheté ça à 180 francs, plus 18%. Donc, ils nous ont fait payer rien que le prix du métal.
Plus 18%.
Alors, le troisième que vous avez entendu, le goût de la précision.
Oui.
Le goût de l'histoire aussi.
Comme souvent les collectionneurs. Hein.
Comme souvent les collectionneurs. Ouais. C'est un garçon dont qu'on peut dire qu'un de ses rêves, c'est d'avoir un tram à lui. Mais bon, il n'a pas le terrain.
Ouais. Peut-être qu'il l'a réalisé.
Ah, absolument, c'est pour ça que si, j'imagine que ces garçons ont quelques années de plus que moi, mais pas beaucoup plus, ils se reconnaissent, welcome, ils peuvent venir témoigner ici de ce qui s'est passé après.
Ou nous revendre leur collection.
Oui, pas moi, mais enfin, s'il y a des amateurs.
Ils sont peut-être devenus directeurs de la STIB.
Peut-être. Oh là là. Tout est possible, le rêve est possible. En tout cas, ce garçon se rappelle avec émotion du 17 juin 77, comme le jour où la ligne du tram 35 a été remplacée. Voilà, pour certains, le 17 juin 77 est important. Pour d'autres, c'est l'appel du 18 juin comme quoi. Dire,
ouais.
Mais pour l'un ou pour l'autre, c'est tout aussi sérieux.
Oh. Quel serait votre vœu le plus cher à propos des trams?
Certainement acquérir un vieux tram et pouvoir le mettre dans une propriété. Mais pour l'instant, bon, comme je suis encore jeune, j'ai pas de terrain qui m'appartient. Alors plus tard, si j'ai des sous pour acheter un terrain quelconque, j'essaierai d'acheter un vieux tram.
En ce qui concerne le réseau de la STIP, qu'on remette des trams où c'est possible.
Oui.
Et puisque maintenant, dans toutes les sociétés, dans tous les séminaires de recherche, c'est le moyen de transport de l'avenir pour les villes. Et malgré tout, on bussifie encore à Bruxelles. Enverrait contre tout.
Ils sont forts pour les bus, quoi. On l'a encore vu le 17 juin 77, on a encore supprimé le tram 35 et on l'a remplacé par un bus. Bon, c'était vraiment... Les raisons n'étaient vraiment pas valables. Quoi. Maintenant, il y a la crise du pétrole. Le pétrole va coûter de plus en plus cher.
Mais voilà.
Il faut arrêter de bussifier.
Il faut arrêter de bussifier la ville. Voilà.
Ah, c'est fou.
Avouez qu'ils sont formidables.
Ouais. Je vois dans les images, c'est à l'époque où il y avait des 19 et des 19
barrés.
Oui. Évidemment. Peut-être qu'ils ont créé, je ne sais pas, mais ça existe à Bruxelles, une friterie dans un tram.
Oui, on est vraiment curieux de savoir ce qu'ils ont fait de leur passion tram.
Et
peut-être
tram
qu'ils n'ont plus du tout envie d'avoir un tram dans leur jardin. Non. Peut-être qu'ils ont changé de passion.
Exactement.
On comprendrait aussi.
Ah, c'était bien. Nous étions donc il y a 40 ans, en fait, à l'époque où ça coûtait combien pour 155 francs belges pour une carte de 10 voyages.
10 trajets, 28 francs le direct.
Voilà.
Et moi, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore aussi le tram. Je dois bien reconnaître.
C'est très, très gai. Merci beaucoup pour ces voix du tram, Laurence Bibeau.
La première.
11h30, 13h. Entrée sans frapper.
Le prix première 2024 a été remis lors de la dernière foire du livre. C'était début de ce mois. Le livre récompensé traverse la vie d'un homme qui n'a pas de nom, qui pourrait être n'importe quel homme. Ça pourrait donc être n'importe quelle vie. Parfois, l'homme, c'est le titre de ce roman signé Sébastien Bailly, qui est notre invité ce midi. Bonjour Sébastien Bailly.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes consultant, vous avez été journaliste aussi, notamment pour Libé, Télérama, vous travaillez dans la communication. Vous êtes expert en écriture professionnelle. Vous avez publié un livre intitulé « Maîtriser les techniques rédactionnelles pour des textes clairs et efficaces ». Vous apportez donc votre savoir-faire à des entreprises, entre autres. Et parfois l'homme est votre premier roman. Quel est votre parcours jusqu'à ce premier roman? Parce que vous avez une vie avant ce premier roman. Quel a été votre parcours vers l'écriture romanesque qui, elle, ne doit pas forcément être claire et efficace?
Mon parcours est ancien. J'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire, en fait. Donc j'ai commencé vers 7 ans et demi, 8 ans, quand j'ai commencé à griffonner les premiers mots. Et j'avais un cahier de poésie pirate à côté du cahier de poésie officiel de l'école, cahier de poésie pirate dans lequel j'écrivais des poèmes. Et puis j'ai reculé le plus longtemps possible le moment de passer au roman, en sachant que c'était ça qui me motivait, que c'était bien l'écriture que j'avais en moi qui, un jour, devait donner quelque chose. Donc j'ai publié pas mal de livres, j'ai fait de l'écriture mon métier, et puis arrivé à la cinquantaine, c'était maintenant ou jamais, donc le premier roman est là.
Pourquoi vous avez reculé cette échéance? Ça fait peur d'écrire un roman?
Ça fait peur, oui, forcément, un peu, parce qu'on se met en danger, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver, parce que c'est surtout de l'incertitude. Avant d'avoir un prix, avant d'aller à Bruxelles, avant tout ça, bah, y a être tout seul dans son salon avec son ordinateur sur les genoux, au petit matin, à essayer d'écrire des choses qui plaisent au moins à celui qui écrit. Donc c'est un travail de solitude et d'incertitude. Oui, oui, y a un peu de peur, et puis j'aurais jamais pu écrire ce roman-là à 20 ans.
Pourquoi la peur? Parce que vous investissez plus dans l'histoire que vous allez raconter dans un roman que dans un livre, justement, pour donner des techniques d'écriture à des professionnels?
Parce que ce qui est professionnel, il y a un certain recul, une distance. Là, il n'y a pas de distance entre moi et le livre, en tout cas au moment où j'écris. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il est plus loin de moi. Maintenant, il appartient au lecteur.
Ouais.
Mais c'est vrai que dans l'acte d'écrire, on n'est pas du tout dans quelque chose de même nature. Je l'ai gardé 6 mois, en fait, pour être tout à fait franc. J'ai gardé ce manuscrit 6 mois chez moi avant de l'envoyer, tellement je me disais, s'il n'est pas pris, y a quelque chose de l'ordre de l'échec. J'y arriverai pas.
Ouais.
Donc oui, il y a de la peur. Et puis derrière, il y a la satisfaction de ce qui se passe depuis pour moi.
Alors, dans ce livre, donc « Parfois l'homme », édité par le Tripode, Sébastien Bailly, chaque chapitre se situe à une étape de la vie d'un homme, de la naissance donc à la mort, en passant par toutes les étapes, quoi, la petite enfance, les premières fois, les collections, Laurence, on en parlait tout à l'heure, des collectionneurs, de 15 ans ou de 17 ans, les amours, le couple, le boulot, etc., etc. Et à chaque chapitre, vous énumérez un grand nombre de possibilités, de cas de figure qui peuvent arriver dans ces moments clés d'une existence. Comment est né ce roman? Comment est née l'idée de décrire finalement une somme, c'est-à-dire une vie entière?
Alors, c'est-à-dire que j'ai attendu un peu, mais j'ai été très ambitieux, je le reconnais. C'est-à-dire que toute la vie de tous les hommes,
ouais.
De la naissance à la mort en 200 pages, c'était pas un projet tout à fait...
Les hommes contemporains, les hommes d'aujourd'hui.
On est bien dans une époque contemporaine, tout à fait. L'idée, elle est née de... puisque j'ai attendu, faisons ce qui me semble le plus difficile à faire. Donc je me suis dit, tout mettre, l'erreur que font tous les primo-romanciers, c'est d'essayer de tout mettre dans le premier roman.
Ouais.
J'ai pas dérogé à cette règle-là. Tout mettre et puis surtout essayer d'être drôle, d'être le plus léger possible à certains moments, et puis parce que la vie est un peu triste parfois, ou mélancolique ou nostalgique, il y a cet aspect-là aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de raconter le plus de choses possible, et puis de dire on ne sait pas ce qui va nous arriver. Ce qui nous arrive, c'est qu'une solution, c'est qu'une option parmi plein d'autres choses qui auraient pu nous arriver, et on ne maîtrise pas tout. Donc il fallait raconter ça, il fallait raconter ces potentialités. On n'en vit qu'une de ces vies-là, mais en fait, il aurait pu se passer tellement d'autres choses.
Ouais, ouais. Vous commencez en écrivant « Où l'homme », donc premier chapitre, « Où l'homme pousse un premier cri, découvre son prénom, commence éventuellement à se poser quelques questions essentielles et grandit, naturellement, vaille que vaille. » On a l'impression qu'il y a en effet une espèce de... d'obligation, en fait. On est là, on arrive, et après, il faut y aller, quoi.
On n'a pas trop le choix.
Non.
j'ai cherché, on n'a pas trop le choix.
Non.
Donc on y va, on fait avec ce qu'on a, au départ, et ça, on ne le maîtrise pas du tout, ni vous, ni moi, ni les uns, ni les autres. Et puis avec tout ça, on essaye de faire au mieux, et puis on maîtrise finalement pas grand-chose. Donc il y a des hasards, il y a des décisions qu'on prend en croyant être le plus rationnel du monde. Mais en fait, si on en avait pris une autre, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Donc on fait avec ce qu'on a. Je crois que c'est vraiment la ligne de base du roman. Et puis, avec ce qu'on a, il nous arrive des choses plus ou moins inattendues, plus ou moins attendues, plus ou moins moyennes.
En tout cas, ce qui est attendu, ce sont les âges, forcément, les différents âges de la vie. Et puisque à chaque chapitre, en effet, à chaque âge, les choses qui arrivent, et les choses arrivent aussi, évidemment, naturellement... vous décrivez une vie, vous décrivez toutes les vies, quelque part. Est-ce que ça veut dire, en sous-main, si je puis dire, entre les lignes, que, à vos yeux, toutes les vies se ressemblent, Sébastien Bailly?
Il se trouve que pour ce qui est de l'actualité, pour ce qui est du contemporain et du monde qu'on partage occidental, européen, nos vies se ressemblent pas mal. Alors quand je vais à Bruxelles, je suis français, je suis désolé. Quand je vais à Bruxelles, je vois bien les différences.
C'est pas grave.
Et j'en suis heureux. mais on passe tous par des étapes à différents moments, avec des décalages, mais on traverse tous des choses en commun. Et j'ai essayé de dire ça aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on vit en commun. Les étapes dans le boulot, par exemple, c'est des choses dont les lectrices et les lecteurs me ramènent. Oui, on a traversé ça, on a vécu ça, ces réunions qui servent à rien, ces promotions qui viennent pas, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît d'une façon ou d'une autre. Et j'ai essayé de donner ça aussi. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce qu'il y a dans le livre, c'est aussi ce qu'on partage, et les retours que j'ai sont forts pour ça, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent dans le livre. Et je ne m'y attendais pas à ce point-là, sincèrement, quand j'ai écrit. Et il y a ces retours, ben là, tu parles de moi. Non, je suis désolé, je ne parle pas de toi, mais si tu te reconnais, tant mieux.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment revenu vers moi, et c'est un vrai plaisir.
Mais évidemment qu'on va se reconnaître, puisque vous abordez à peu près tous les cas de figure de vie moyenne. Voilà, c'est pas des vies de mecs qui vont devenir président d'une république ou superstar hollywoodienne. Ce sont des gens, entre guillemets, et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, ordinaires.
Il y a en fait l'extraordinaire qui prend beaucoup de place dans les médias, c'est statistiquement c'est quand même peu de monde,
ouais.
ça concerne peu de gens. Alors je l'aborde parce que ça arrive, mais ça arrive peu. Les vies sont des vies ordinaires, moyennes. Oui, ce sont nos vies de famille, ce sont les courses qu'on fait le samedi, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est la vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours. Et cette vie-là, elle a le droit à une place dans ce qu'on raconte. On nous raconte souvent dans les romans, dans les films, des choses extraordinaires avec des héros incroyables auxquels on s'identifie. Et puis quand on retourne chez soi, on est quand même vachement déçu parce que on est rarement dans Mission Impossible. on est rarement chez Marvel. Et on nous raconte que ces histoires-là. L'histoire que je raconte, c'est la nôtre. C'est celle de chacun d'entre nous. Et c'est la vraie aventure qu'on vit nous. C'est-à-dire qu'on se lève le matin et notre aventure, à nous,
ouais.
bah, c'est d'aller jusqu'au soir et d'enchaîner les journées.
Est-ce que écrire ce livre, Sébastien Bailly, ça a été pour vous aussi une manière un peu d'exorciser le fait que finalement on vit un petit peu tous le même type de vie et que c'est une aventure. Et peut-être qu'en effet, l'écrire et le mettre noir sur blanc sur du papier, c'est se convaincre quelque part que nos vies dites moyennes ou ordinaires sont en fait des aventures.
Ce sont des aventures avec des obstacles, avec des joies, avec du bonheur, avec tout ça. Donc oui, c'est une façon peut-être de s'en convaincre, je ne sais pas, je crois que j'en étais déjà convaincu avant, mais c'est une façon de dire ce que chacun d'entre nous traverse, c'est beaucoup plus que ce qu'on nous vend comme histoire. C'est-à-dire que l'histoire de notre vie, c'est la seule vraie histoire. Qu'on ait à se raconter.
Alors, il y a évidemment le plaisir aussi de la lecture et de la punchline. J'en cite une ou deux, si vous le voulez bien, Sébastien. L'argent a été inventé parce que c'est plus léger que les menhirs. C'est une espèce d'évidence, comme ça, payer en menhirs, en effet, a longtemps posé des problèmes et limité la fluidité des échanges commerciaux. Quelle est la place de l'humour ? Parce que, en fait, vous avez un regard assez acéré et parfois, sur l'homme, sur ce qu'il fait de sa vie, sur la vie justement contemporaine d'aujourd'hui, le samedi avec les courses, le boulot, la retraite, puis la mort au bout. Quel est votre regard et quelle est la place de l'humour que vous mettez dans ce bouquin ?
L'humour est essentiel. Je crois qu'on ne peut pas se sortir de tout ça sans humour. Il est venu naturellement. C'est quelque chose qui s'impose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Tout ça est relativement absurde, en tout cas tel que je le vis et tel que je le présente. Et dans cette absurdité globale, il n'y a que l'humour qui nous aide à passer tout ça, à traverser tout ça. Donc l'humour était indispensable. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de rendre les choses supportables.
Ouais. Autre punchline, si la plupart des gens se contentaient de ne rien faire, le monde n'irait pas beaucoup plus mal. Là aussi, ça demande peut-être pas une explication, parce qu'on n'explique pas ce genre de phrase, mais c'est quel type d'humour que vous pratiquez dans ce livre, Sébastien Bailly? C'est un humour un petit peu désespéré, ou c'est un humour absurde?
C'est de l'humour belge. Non, mais oui, c'est de l'humour absurde. C'est, je sais pas, on est dans la lignée, parce que c'est comme ça que c'est le plus simple de définir les choses. On est dans la lignée de Pierre Dac, on est dans la lignée de Woody Allen, on est dans ces lignées-là. C'est-à-dire que c'est pas de l'humour gras, c'est pas du sarcasme, c'est pas, mais voilà, une forme de légèreté. Une forme de tendresse, peut-être. Et puis, oui, c'est clairement désabusé. Et puis, l'idée, c'est que ça soit agréable à lire. Quand même.
Ouais. Désabusé, pourquoi ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une ligne narrative qui traverse à la fois ce livre et la vie de l'homme, de parfois l'homme que vous décrivez, Sébastien Bailly. C'est une sorte de ligne pour échapper à la routine, quelque part. Comme si les vies que nous vivons et que toutes les activités qui remplissent ces vies servent à échapper à la routine, à échapper à l'ennui. Quelle est la place de l'ennui dans ces vies-là?
Alors, il y a une vraie place de l'ennui et y a une place de l'ennui dans le livre. C'est-à-dire que je trouve qu'on remplit trop. On remplit trop les vies, on ne sait plus s'arrêter, on ne sait plus prendre le temps. Et y a des chapitres consacrés à l'ennui. C'est vrai qu'on est dans un rythme où il faudrait se distraire tout le temps, s'amuser tout le temps. Y a pas que ça. En fait, la vie, et ça, ce n'est pas dans les histoires qu'on nous raconte, la vie, elle est faite de tous ces temps où on attend le train, où on attend le rendez-vous. La vie, elle est faite de ces temps d'attente. Et comment on remplit ça et comment on en fait ça quelque chose de positif? Les moments les plus créatifs.
Sans que ce soit du temps perdu, parce que c'est ça le truc. Il y a la mort au bout. Si on perd une heure, c'est une heure de moins, quelque part.
On perd jamais du temps.
Ouais.
Jamais.
Mmh. Parfois, l'homme, Sébastien Bailly, se termine, je ne spoil rien, par la mort de l'homme, parce que parfois l'homme meurt, enfin tout le temps même. Je ne veux pas parler de ce qui arrive vraiment à la toute fin, parce que voilà, les funérailles ne se déroulent pas forcément comme on s'y attendait. Il y a de nouveau une punchline, mais que je ne dirai pas dans cette émission. Il y a aussi l'idée, finalement, à travers cette punchline, que vous vous demandez à quoi ça sert finalement la vie. On aura vécu un certain nombre d'années pour en arriver là. Quel est votre regard là-dessus ?
Il se trouve que j'ai vécu ce qu'il y a dans le livre jusqu'à à peu près 50 ans. Et à la fin, je ne sais pas, je suis obligé d'inventer, je ne suis pas à passer jusque-là. Donc j'invente un peu. Mon regard, oui, c'est qu'on rêve tous de laisser des traces. Il y a cette espèce d'injonction à réussir, cette espèce d'injonction à marquer son époque, à au moins marquer ses proches, et puis à avoir fait quelque chose. La plupart des gens ne font pas grand-chose. Et c'est pas grave. En tout cas, moi, je vis très bien comme ça.
Sébastien Bailly, allez, un dernier extrait avant de se quitter de votre roman, premier roman et prix premier 2024, Parfois l'homme. Les gens ont des vies formidables, remplies de rebondissements. Ils voyagent, ils découvrent des choses. Lui, rien. Il se morfond, il attend, toujours rien. Bon, la journée a passé assez vite, finalement, on ne s'est pas particulièrement ennuyé. Voilà, il y a comme ça à peu près, je ne sais pas combien de chapitres, mais qui racontent finalement, il y en a plus de 100, hein, qui racontent la vie d'un homme. Merci beaucoup Sébastien Bailly, et encore félicitations pour ce prix première qui vous a couronné il y a quelques semaines. Parfois l'homme, c'est aux éditions Le Tripode. Merci Sébastien.
Merci.
De 11h30 à 13h,
Entrez sans frapper sur la première.
12h33, ce mercredi sort The Fall Guy. C'est un film américain de David Leitch avec Ryan Gosling, Emily Blunt. C'est un film d'action. C'est aussi un film d'amour aussi, mais qui se déroule dans le milieu du cinéma, qui nous montre les coulisses du cinéma et qui met en scène Colt Seaver. C'est un cascadeur qui va devoir retrouver la star qu'il double et qui a mystérieusement disparu. Le film s'inspire de la série L'Homme qui tombe à pic. Vous vous souvenez de cette série, les amis, avec Lee Majors, qui fait d'ailleurs une petite apparition dans le film. Alors, le film est un prétexte, évidemment, à de nombreuses cascades, puisque le héros est cascadeur. Il est d'ailleurs réalisé par un ancien cascadeur, David Leitch, qui rend hommage à ce métier de l'ombre sur lequel nous allons nous pencher. Métier de cascadeur, de coordinateur de cascade, avec notre deuxième invité ce midi, Olivier Bisbach. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes né à Alost dans les années 70. C'est dans les années 90 que l'aventure commence pour vous avec une audition pour un film avec, tiens, Jean-Claude Van Damme. Vous vous rendez aussi à Hollywood. Vous allez apprendre ce métier. Vous allez découvrir une passion, en fait, pour ce métier et pour le cinéma. Et vous allez revenir en Belgique. Et c'est là vraiment que au début des années 2000, que votre carrière commence avec le cinéaste Yann Verheyen. Au début des années 2000, vous décrochez aussi un diplôme à l'International Stunt School de Seattle. Vous êtes membre de la United Stuntmen Association. Et puis, votre métier, vous allez nous le raconter, c'est un métier qui consiste à coordonner des combats, des cascades, au cinéma, à la télévision. Il faut aller voir sur IMDb la filmographie de notre invité. C'est assez impressionnant. Vous avez travaillé sur JCVD, évidemment. Et évidemment, parce que Jean-Claude Van Damme est un peu votre modèle. Flawless, la série Les Amateurs, aussi, avec François Damiens. Plus récemment, vous avez travaillé sur Amal, Les Intranquilles, L'Ennemi, la série des Ducobu, Vivarium, excellent film. Bref, une filmographie importante. On va écouter un extrait de la bande-annonce de The Fall Guy que vous avez vu.
Oui, j'ai vu deux fois.
Deux fois. Vous deviez voir ce film.
Oui, c'est vraiment un film sur notre vie et j'ai adoré le film et je vais aller revoir encore avec tous mes cascadeurs.
Tous vos amis cascadeurs. Un extrait de la bande-annonce.
Ok, I'm not the hero of this story. I'm just a stunt guy. Trying to look cool in front of the director of this movie. That's her, who I just so happen to have a major crush on.
We need to keep it super profesh.
Cool.
Ryan Gosling, Emily Blunt, The Fall Guy, qui sort donc, on en reparlera ce mercredi sur les écrans. C'est un film de David Leitch qui est donc un ancien cascadeur. Il faut rester jusqu'au bout du film parce qu'il y a le générique de fin. Et le générique de fin, c'est le making-of. Et on voit toutes les cascades qu'on a vues dans le film qui sont montrées. On voit un petit peu comment c'est fabriqué. Est-ce que c'est un film qui est crédible, Olivier ?
Pour moi, oui. Je suis sorti de la salle. Et c'était comme c'était un film sur ma vie.
Ah ouais?
Oui.
Donc c'est un film réaliste sur le métier de cascadeur.
Ah oui, vraiment. Ouais. Même les pouces, les petits mouvements, les détails. Tu sens que c'est vraiment un film qui a été écrit et réalisé par un vrai cascadeur.
Alors, il faut expliquer les pouces, hein, évidemment. Il y a les cascades, ce sont des chutes, ce sont des tonneaux en bagnole, ce sont des combats, des gens qui tombent, qui sont projetés sur des murs. C'est quoi le pouce levé ?
Eh bien, le pouce, par exemple, si nous, on fait une chute de 20 mètres, et là, on est dans les cartons, on est tombé, et la seule chose qu'on fait, c'est...
Ouais.
Le pouce. Et donc, on voit juste un pouce dans des cartons, mais ça veut dire que le cascadeur... Il est en bon sens.
Ouais, ça veut pas dire que la cascade est réussie, ça veut pas dire non plus qu'elle a été bien filmée, finalement.
Non, en fait, le pouce, ça veut dire que
je suis okay.
I am okay.
Okay.
Donc, comme à l'époque, dans l'armée, c'était zero kills, okay.
Okay. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Alors, vous êtes passé, vous avez un schéma traditionnel, le sport, les arts martiaux. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier?
Oh, pour moi, j'avais vu un film avec Bruce Lee et Chuck Norris.
Ouais.
Et là, j'avais 12 ans, j'ai dit, moi, je veux être un acteur qui fait ses propres cascades.
D'accord.
Et quelques années plus tard, il y avait Jean-Claude Van Damme qui avait réussi aux États-Unis avec le film Karate Tiger. Mm-hmm. Et là, c'était, oh, wow, c'est un Belge. Donc, et là, j'ai dit, ah, moi, je veux faire ça aussi.
Ouais.
Et voilà, c'est ça qui m'a inspiré.
Il y a beaucoup de Belges qui sont dans ce métier.
Je pense que ici en Belgique, moi, je suis un des seuls qui a un parcours de 30 ans parce que moi, j'ai commencé quand j'avais 20 ans, mais j'avais un job par semaine. Et c'était, ouais. À l'époque, c'était 500 francs belges, donc c'est 15 euros, tu vois. Tu sais pas en vivre. Ouais. Mais j'ai persisté, et moi, j'appelle ça le consistent commitment. Donc c'est ouais. Être...
Une implication...
Oui, une détermination consistante. Ouais. Parce que c'est vraiment... avec tomber et se redresser ce métier.
Alors, j'ai cité des films tout à l'heure, on se dit, tiens, Les Intranquilles ou Du Cobu, c'est pas vraiment des films d'action, et pourtant, et ça, c'est très clair dans The Fall Guy, ils le disent dès le départ, à peu près dans tous les films, on fait appel à des cascadeurs. En quoi consiste votre boulot de coordinateur de cascade ? Sur Du Cobu, par exemple, parce que ça intéresse beaucoup Michel. Il s'est dit, bah, Du Cobu, c'est pas possible, il n'y a pas de cascade. Bah, si.
Bah, par exemple, Du Cobu, il y a le professeur Elie Simoun qui rentre dans la classe et la porte tombe, par exemple. Eh bien, c'est une cascade. Ou il y a une voiture qui part très vite, c'est une cascade. Ou lui, il roule en bicyclette et il y a presque un accident, c'est rigolo. Mais c'est un cascadeur.
Ouais.
Là, il a des petits combats, des claques, des trucs comme ça. Donc, tout ça sont des petites cascades.
Ouais. Ça se prépare comment ? Parce que, voilà, quand il y a un accident entre un vélo ou une voiture qui a failli arriver, ça se prépare longtemps à l'avance. Il faut des croquis, il faut faire des répétitions.
Oui, ce que nous, on fait, on commence avec des matchbox, des petites voitures comme ça, et un petit, avec des Playmobil et des trucs comme ça. Donc, et là, moi, j'explique un peu la chorégraphie, ce qu'on va faire. Tchac, 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 boum, boum, boum. Après, nous, on fait une répète à l'italienne, moi, j'appelle ça.
Ouais.
Donc, ça veut dire que je dis, pam, 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 pour le timing à 20%.
Ça veut dire que vous travaillez avec le réalisateur, avec le cadreur aussi.
Ah, toujours, hein. Oui, toujours. Ouais. Donc, moi, je prépare quelque chose et, allez, moi, je prépare le plat, je vais dire. Et alors, c'est le réalisateur et le DOP ou Director of Photography, c'est le caméraman.
Oui, oui, oui.
Mais il n'aime pas trop ce mot. C'est DOP, c'est plus chic.
Directeur photo, c'est
Oui, c'est ça, voilà. et donc, là, eux, ils peuvent rajouter du poivre, du sel. Et donc, les épices, c'est pour eux. Et une fois que c'est bon, là, on commence à travailler sur le timing. Et après, c'est 3, 2, 1, and action. Et moi, je suis là, OK, et go, go, go. Et donc c'est...
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous coordonnez le travail d'autres cascadeurs ou vous faites encore vous-même certaines cascades?
Moi, je suis, un règleur. Qui veut toujours être au top, donc si je peux le faire moi-même, je le fais encore. Donc je vais avoir 51 ans. On dit
51 ans,
voilà. Mais je pense que c'est dans mon corps. Donc j'ai difficile à lâcher.
Il y a dans le film de Fall Guy, Ryan Gosling, c'est évidemment Colt Sivers, il sait tout faire, il a toutes les spécialités. Il se bagarre, il fait des cascades en voiture, il fait des chutes de 80 mètres. Est-ce que, alors ça c'est un cas de figure, c'est le héros du film, mais est-ce que c'est le cas dans la réalité ? Est-ce que les cascadeurs peuvent normalement doivent tout faire ? Ou alors est-ce qu'il y a des spécialités ? Les armes, par exemple, les épées, le combat à l'épée, le combat en art martial, est-ce qu'il y a des spécialités ?
Disons que moi, je suis old school, hein, comme Colt Sivers. Donc, ça veut dire que moi, j'ai fait tout et je fais encore tout ou j'essaye de faire tout.
Ouais.
Mais évidemment, quand il y a des cascades voitures spécialisées, par exemple, là, on prend évidemment des cascadeurs qui ne font que ça.
Ouais, ouais.
Mais disons que nous, on est des homo universalis.
D'accord. Michel.
Aujourd'hui, avec la consommation massive de jeux vidéo, tout est permis, les IA et ainsi de suite, est-ce que vous vous retrouvez dans des situations où les réalisateurs ou les scénaristes arrivent avec des situations qui sont impossibles à faire pour des cascadeurs, où vous vous dites, là, la prise de risque est quand même tellement énorme que ça vaut peut-être pas le coup de le faire et...
J'ai jamais refusé quelque chose. Donc, disons, tout est possible, mais parfois, ils ont une autre vision. Avec ça, je veux dire qu'ils veulent ça filmer comme ça et comme ça, que c'est vraiment dangereux. Et en plus, à l'écran, c'est pas joli. Et donc, ce que moi, je fais, je leur propose, voilà, mais si on fait ça, tac, une tac, 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 ouais. Une alternative. Et là, c'est beaucoup plus spectaculaire et c'est moins dangereux.
Ah ouais. Pour rebondir sur la question de Michel, il y a aussi dans le film toute une histoire avec les deepfakes, c'est-à-dire la possibilité technologique de mettre un visage. Vous pourriez avoir le visage de Tom Cruise, par exemple, Laurence. Eh oui, ou de n'importe qui, finalement. Est-ce que ça pose un problème dans ce métier ? Moi, je me souviens dans Terminator, la fameuse scène de la poursuite en moto, c'était pas Schwarzenegger, évidemment, et de loin, quand on faisait des images arrêtées sur la vidéo, on voyait que c'était un masque, c'était voilà quelqu'un qui avait mis un masque. Aujourd'hui, avec le deepfake, c'est totalement, on croit que c'est la personne, que c'est l'acteur, que c'est la star qui fait la cascade. Est-ce que ça amène des choses nouvelles dans votre métier ?
Oui, j'ai pensé à ça et j'en ai parlé avec mes cascadeurs aussi. Moi, je pense que moi j'étais le premier cascadeur en Belgique. Et je pense que je vais être aussi le dernier. Avec un parcours de... Allez, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. Si je continue encore 10 ans, là, j'ai 40 ans. Parce que je pense que ça va changer.
C'est un métier qui va changer,
oui.
À cause des technologies.
Oui, parce qu'on sent déjà maintenant, avant, les impacts avec des fusils, avec des pistolets, c'était mécanique. Donc, ça veut dire que... c'était avec du sang et tout ça. Maintenant, c'est... 8 fois sur 10, c'est CGI déjà.
Ok, donc c'est rajouté...
Ça veut dire que même le comédien, il exagère maintenant, mais il peut faire un mouvement en ralenti.
Ouais.
Et après, ils vont...
Faire des effets spéciaux en 3D.
Un truc en CGI, ouais. Tu vois. Moi, je trouve que tu sens que c'est pas vrai, c'est différent.
Ouais.
Mais je veux dire, ça change, parce que ça veut dire que sur 10 impacts, on perd 8 fois le job déjà.
Ouais. Donc c'est un métier un petit peu en danger quelque part.
Oui, c'était Laurent. Ça ma question, en effet, puisque les images artificielles arrivent, vous allez devoir vous adapter aussi.
Oui, c'est ça.
Vous n'allez sans doute pas disparaître parce que c'est impossible de remplacer tout à fait certaines actions.
Voilà, ce que moi je sens déjà maintenant, c'est que le job de régleur cascade traditionnel, c'est devenu plutôt action designer.
Ah, oui.
Donc ça veut dire que nous, on va nous appeler pour... stipuler le look des combats.
C'est de la chorégraphie quelque part, non?
C'est ça.
C'est chorégraphier un combat, un duel ou que sais-je.
Oui, c'est ça. Mais avant, c'était juste le combat qui était important. Mais maintenant, c'est aussi le look.
Peut-être que vous avez une expertise aussi que les images artificielles n'ont pas, c'est que vous savez comment c'est filmé pour que ça soit plus spectaculaire,
voilà.
Quel angle prendre, il reste une expertise.
Et ça aussi, de plus en plus, nous, allez, on appelle ça « second unit director », donc ça veut dire que quand il y a des cascades...
Oui, c'est la deuxième équipe.
Oui, donc là ils vont dire voilà, « bisback à toi maintenant ». Et là, c'est vraiment nous qui... Parce que parfois, ils n'ont pas beaucoup de temps. Voilà, et là on a encore une heure, et là c'est moi qui, et là c'est vitesse,
ouais.
Tu dis ok, la caméra là, tac tac,
ouais,
tac,
parce que vous travaillez pour la télé, on sait que la télé a moins de budget,
oui, ça aussi,
et ça doit aller beaucoup plus vite évidemment,
parce qu'avant on a vraiment le temps et les moyens pour faire des trucs, et maintenant ils demandent toujours de plus en plus. Mais ouais. On a toujours de moins en moins le temps,
ouais.
Donc ça devient...
Il y a encore deux questions que je me pose et qui sont aussi présentes, bien présentes dans le film The Fall Guy qui sort mercredi. C'est la relation à la vedette. C'est-à-dire que dans le film, le personnage de Ryan Gosling est la doublure d'un acteur... Voilà, et c'est tout le temps le même, ils sont tout le temps en binôme, si je puis dire. Est-ce que ça arrive souvent ? Est-ce qu'il y a des relations d'amitié qui peuvent se nouer entre la vedette et son double ?
Parce que allez, moi j'ai un exemple. Donc moi quand j'étais petit, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme.
Ouais.
C'était mon rêve de travailler avec lui. Et donc un jour, j'étais régleur sur un film avec lui. J'avais un combat avec lui et je sais pas, mais on s'entendait très bien. Et là, il m'a dit, je te prends avec pour un autre film en Thaïlande. Et depuis, c'est un ami. Et on se téléphone encore de temps en temps.
Donc, c'est aussi quelque chose qui existe.
Il répète ensemble. Et donc, tous les comédiens avec qui j'ai travaillé, moi, je leur vois dans un contexte moins professionnel, je veux dire.
Ouais.
Pas sur le set, mais dans une salle, dans un gym, dans une salle. Et donc, après, j'ai le temps pour parler avec eux. Et donc, allez.
Oui, en plus, on le voit sur les photos.
Hein. Ouais, c'est...
Plein de rencontres, évidemment, sur le tournage. Une dernière question, parce qu'on l'a dit, hein, c'est un film qui est réalisé par un ancien cascadeur, David Leitch. Il y a énormément de... C'est un hommage, finalement, à votre métier. Est-ce qu'il y a parfois la tentation, comme certains l'ont fait, de passer de cascadeur à comédien ou de cascadeur à réalisateur?
Oui, c'est, en fait, je pense que c'est le rêve...
c'est le rêve ultime,
ultime de tout le monde. Ouais. Même moi, comment dire... moi, je suis un cascadeur pur sang. Donc, oui, je joue aussi souvent dans des films. J'ai des petits rôles, mais je suis assez... comment dire... j'ai les pieds par terre.
Que... Ouais. C'est pas trop frustrant d'être l'homme de l'ombre?
Non, moi, j'adore parce que... moi, je trouve que le job de cascadeur, c'est le job le plus cool du monde. J'ai rencontré Chuck Norris, Sylvester Stallone, Van Damme. J'ai parlé avec eux, j'ai des photos avec eux. Parfois, on tourne aux États-Unis, parfois à Londres. Donc c'est...
Vie de rêve, quoi.
Moi, je trouve que oui.
Ouais. Merci, Olivier Bisbach, d'avoir été des nôtres. À l'occasion, je le répète, de la sortie du film The Fall Guy. Ça sort mercredi prochain. Et puis, longue vie à votre carrière, hein, puisque vous l'avez dit, encore une dizaine d'années.
J'espère.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été
avec plaisir.
Des nôtres. Il est 12h49. Voici Match à Queen, c'est... Yoa.
Entrez sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
On va parler de littérature de genre avec vous, de polar en particulier, de techno-polar, Michel Dufresne, parce qu'il y a trois bouquins qui sortent et qui ont un fil conducteur, une thématique commune.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, les auteurs de polar s'interrogent beaucoup sur la relation entre technologie et contrôle social. Et il se fait, alors c'était dans le cadre de Quai du Polar, j'ai eu l'occasion de rencontrer les trois auteurs en même temps lors d'un débat. Et les visions sont intéressantes. C'est pour ça que j'avais envie de parler des trois romans, parce qu'ils forment une sorte de continuum, je dirais, qui va du plus contemporain vers le plus dystopique.
Ouais.
Mais on est bien dans des récits polar, avec les twists polar, la dimension enquête et ce genre de choses. Le premier dont j'avais envie de parler, c'est Cyril Carrère avec La colère d'Izanagi aux éditions de Noël. Alors Cyril Carrère est un auteur franco-japonais, donc il est français d'origine, mais il s'est marié à une japonaise et il vit au Japon depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, il a les fameux papiers qui lui permettent d'être japonais. Dans la vie réelle, il est spécialiste en cybersécurité. Et donc, dans son roman.
Il n'est pas anodin.
Ce qui n'est pas anodin. Bon, je vais le répéter trois fois, hein, sachez-le. donc, dans La colère d'Izanagi, ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un incendie criminel à Tokyo. Il va créer un duo de flics classique, avec un flic très japonais et une flic qui a la double nationalité. Et parallèlement à ça, vous avez un duo d'étudiants qui sont mis sur la touche suite à cet incendie. Elle va s'en sortir et lui va plonger dans sa dépression et les solutions qu'il va trouver se trouvent dans le dark web. Et c'est ça qui est intéressant dans le récit de Cyril Carrère. Outre le fait que ça fonctionne bien en tant que polar, c'est ce rapport entre tradition et modernité, très japonais, puisque Izanagi est un mythe fondateur du Japon, mais comment le dark web et les hackers vont s'approprier les mythes classiques pour en faire des armes. Et c'est ce regard d'un Européen, mais de là-bas, sur la société japonaise et sur la façon dont les marginaux sont oubliés, ceux qui décrochent sont oubliés, et la technologie vient à leur secours, mettez des gros guillemets, puisqu'effectivement, cette technologie devient un palliatif social. Je suis célibataire, mais j'ai une poupée holographique qui me parle et je dois m'excuser quand j'arrive en retard ou quand je ne travaille pas assez. Les femmes enceintes ont des badges qui sonnent dans le métro sur les applis téléphone des gens pour que, sans la regarder, je puisse me lever. Enfin, tout ce genre de choses.
Okay.
Et tout ça est décrit. Or, on dit souvent, le Japon, c'est quand même un peu 10 ans d'avance en termes d'usage des technologies par rapport à ce qu'on va avoir chez nous. Et ce regard est intéressant dans un très bon polar. Sylvain Forche, lui, avec Veritas, vient un petit peu plus loin, quoique Sylvain Force, spécialiste de cybersécurité, mais lui, elle est à très haut niveau dans les ministères et autres.
C'est un métier d'avenir.
Voilà. Et Veritas fait écho, en fait, à un roman précédent qui s'intitulait Sarah. Alors, Sarah n'est pas une femme, mais bien Search and Report Application. C'est une application installée dans ce roman-là à Nantes afin de faire de la reconnaissance active de visage pour la sécurité de tout le monde. Modèle qui aujourd'hui va être d'application aux JO de Paris, mais au final pas qu'aux JO, puisqu'aussi dans les salles de concert et ce genre de choses.
Et pas que pour la sécurité de tout le monde.
Et pas que pour la sécurité de tout le monde. Et c'est en fait la question qu'il soulève, c'est que l'enjeu aujourd'hui, quand on crée des grands événements tels que des Coupes du Monde ou des JO, invariablement, les libertés individuelles se réduisent parce que, au nom du groupe, la sécurité va primer. Or, on accepte ces outils démocratiquement, mais que pourrait-il se passer si les gens élus démocratiquement n'étaient plus tout à fait démocrates. Mmh. Et donc, dans Veritas, qui fait un peu suite à ce Sarah, on retrouve ce même contexte. Et là, l'enjeu, c'est un outil technologique qui est en train d'être testé, d'après l'auteur, qui sont des lentilles détectrices de mensonges, puisque ce sont des lentilles qui, en temps réel, analysent vos micro-mouvements musculaires, vos micro-mouvements oculaires, et peuvent déceler si oui ou non vous êtes en train de mentir. Et donc, l'héroïne de Veritas décide de planquer sa recherche. Et donc, vous avez une guerre entre barbouze d'un côté, hacker de l'autre, hacker et barbouze.
Bonne idée, ça.
Et voilà. Et donc, de nouveau, on est dans cette réflexion où, avec Sylvain Forge, ce qui est écrit, c'est pas tout à fait demain, parce que c'est presque déjà un peu aujourd'hui soir. Hein, puisqu'on voit bien qu'il a les pieds dedans. Alors, Benjamin Fogel, lui, va nous amener un peu plus loin avec son dernier roman, qui est L'absence selon Camille, qui en fait clôt une trilogie. Trilogie dans laquelle il a toujours une option qui est du roman choral, une construction autour de différents points de vue, de façon à ce que l'auteur n'impose pas une réponse, mais nous questionne en permanence sur le contenu. Alors, il avait commencé avec la problématique dans le premier roman sur le cyberharcèlement, la construction en virtuel d'émeutes, des groupes masculinistes, et ça c'était le silence de Manon. Et maintenant, avec La transparence selon Irina et le dernier L'absence selon Camille, il nous parle du fantasme de la transparence. Sur les réseaux, en réponse à toutes ces meutes et autres, eh bien tout est transparent. On ne peut plus mentir sur les réseaux, on doit dire la vérité en permanence, et on expose notre vie en permanence. Et donc, où va se créer le mensonge ? Dans le réel. Désormais, dans le réel, on va avoir des pseudos, on va essayer de se camoufler et autres. Et donc, on bascule les choses. Et la question est toujours la même, c'est apporte-t-on de vraies solutions ? Et les problèmes posés sont-ils de vrais problèmes ? Ou au final, est-ce que les solutions démocratiques, au nom de la liberté, de la sécurité et autres, ne sont pas pires que les problèmes eux-mêmes qu'elles engendrent.
Voilà, La colère d'Izanagi, c'est Cyril Carrère et c'est chez De Noël. Benjamin Fogel, c'est L'absence selon Camille chez Rivage Noir. Et puis Sylvain Forge, c'est Veritas
chez Fayard.
Chez Fayard Noir. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Laurence.
Merci, Eric.
Merci à Eve Yans. Merci à Marie-Agnès Beaupin. Dans quelques instants, les informations de 13h avec Olivier Nederland. Demain, c'est Jérôme Collin qui recevra Caroline de Mulder pour son roman La pouponnière d'Himmler chez Gallimard. Merci à tous. Dans quelques instants, les infos. Bon après-midi à l'écoute de La Première.
La Première.
L'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.